France Info.
France Info, merci de vous réveiller avec nous. Il est 5h. Et à la une de ce vendredi 16 janvier, le gouvernement revient sur les quotas d'arrêt maladie et répond à l'une des revendications des médecins libéraux en grève depuis 10 jours. La ministre de la Santé est prête à revenir sur d'autres mesures, nous le verrons. La France renonce à augmenter une taxe sur les GAFAM sous la pression des États-Unis, une révélation de la cellule Investigation de Radio France. L'inquiétude des Iraniens de France face à la répression dans leur pays, plus de 3400 morts selon l'ONG Iran Human Rights. Et puis, belle entrée en matière pour les Bleus à l'Euro de hand avec une première victoire contre la République tchèque. Face à la colère des médecins libéraux en grève depuis 10 jours, le gouvernement renonce aux quotas sur les arrêts maladie. La ministre de la Santé a reçu les syndicats les uns après les autres hier et avant-hier. Elle a lâché du lest sur plusieurs points de blocage. Peut-être de quoi sortir du bras de fer avec les organisations de médecins. Les syndicats se sont réunis hier soir et ont pris acte des propositions de Stéphanie Rist. Anne-Laure Danier.
C'est le principal point de blocage, ce que les médecins appellent les quotas sur les arrêts maladie. La ministre de la Santé promet de supprimer cet article du projet de loi contre les fraudes qui va revenir en discussion à l'Assemblée. Stéphanie Rist fait un pas sur un autre dossier brûlant. Elle promet de retirer dès qu'elle le pourra du budget de la Sécu les articles qui permettent au directeur de l'assurance maladie de modifier les tarifs des médecins sans les consulter. Et enfin, la ministre est d'accord pour rectifier le tir sur les baisses de rémunération des médecins qui cumulent emploi et retraite. Maintenant, les syndicats veulent du concret, à savoir une lettre à en tête du ministère qui résume noir sur blanc toutes ces avancées. Stéphanie Rist a promis de leur envoyer aujourd'hui. L'intersyndicale se réunira une nouvelle fois ce soir pour décider d'arrêter ou de poursuivre ce mouvement de grève.
Anne-Laure Danier, les débats sur le prochain budget de l'État 2026 reprendront mardi prochain. Le gouvernement a annulé les débats prévus aujourd'hui et lundi, estimant que le vote du budget est impossible. D'ici mardi, l'exécutif devra trancher entre utilisation du 49.3 ou ordonnance pour faire passer le texte sans vote. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'était pourtant engagé à ne pas utiliser le 49.3. La France a-t-elle renoncé à sa souveraineté fiscale face aux menaces américaines? Le ministre de l'économie, Roland Lescure, assurait hier sur France Inter qu'il ne fallait pas plier face aux géants du numérique. Mais la cellule d'investigation de Radio France révèle ce matin une lettre du Congrès américain menaçant la France de sanctions commerciales en cas de hausse de la taxe GAFAM, une taxe spécifique sur les géants du numérique comme Google, Meta ou Amazon. Marie Dupin, le gouvernement français a cédé à la pression des États-Unis, influençant directement les députés pour bloquer toute hausse de cette taxe.
Oui, fin octobre, les députés français veulent augmenter fortement la taxe GAFAM de 3 à 15%. Mais avant même le vote, le Congrès américain dénonce une attaque injustifiée. Roland Lescure, le ministre de l'économie, met alors en garde contre des représailles américaines. La hausse à 15% est abandonnée, mais un compromis porté par le député macroniste Jean-René Cazeneuve à 6% est adopté. Encore trop pour Washington. Le Congrès américain écrit directement à Donald Trump. Le message arrive à Bercy, puis jusqu'aux représentants des vins et spiritueux français, inquiets de sanctions douanières. Résultat, la hausse de la taxe GAFAM est finalement enterrée, comme l'admet Jean-René Cazeneuve.
Moi, j'aurais préféré cette taxe, mais il y a un président des États-Unis aujourd'hui capable de réactions imprévisibles, violentes. Je le regrette. Mais après, si demain il y a des représailles américaines, qui prendra la responsabilité?
Pourtant, en 2019, lors de la création de la taxe GAFAM, les États-Unis avaient brandi les mêmes menaces. Le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, avait alors dénoncé un chantage inacceptable.
Marie Dupin, cellule investigation de Radio France. Une acquisition du Groenland par les États-Unis est hors de question, déclare cette nuit le Danemark. Washington a réitéré sa volonté d'acquérir ce territoire autonome danois. La Maison-Blanche assure que le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif du président Trump. Des troupes françaises, allemandes, norvégiennes et suédoises qui sont sur place depuis hier pour une mission militaire de reconnaissance l'essence. On y revient plus en détail dans moins de 5 minutes, juste après le journal. Donald Trump qui salue ce matin, je cite, le geste magnifique de Maria Corina Machado. L'opposante vénézuélienne lui a offert sa médaille du prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche à Washington. Une rencontre moins de 2 semaines après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, désormais détenu aux États-Unis. France Info, il est 5h05. Selon la Maison Blanche, l'Iran a renoncé à 800 exécutions de manifestants initialement prévues avant-hier. Les États-Unis assurent que toutes les options restent sur la table. Ils ont pris hier des sanctions économiques contre des responsables de l'appareil répressif iranien. Plus de 3400 personnes ont été tuées par les forces du régime depuis le début des manifestations, selon l'ONG Iran Human Rights. Dans le pays, le réseau Internet est coupé depuis plus d'une semaine, mais les appels téléphoniques depuis l'Iran vers l'étranger ont repris ces derniers jours. La diaspora iranienne en France reçoit donc des nouvelles de ses proches. Timur Özturk.
Sans nouvelles de sa famille, dans l'angoisse depuis la coupure des communications en Iran, Mariam a enfin pu savoir comment vont ses proches grâce à un appel de sa belle-sœur.
Au début, ça coupait, mais je pense que pendant 30 ou 40 secondes, on a réussi à se parler. Il y avait des gens de ma famille qui étaient dans la rue. On a un cousin qui s'est fait arrêter et l'autre qui a reçu une balle, il est à l'hôpital.
Un cousin blessé, un autre détenu et depuis cette conversation au téléphone, plus rien. Mariam s'inquiète notamment pour son cousin arrêté alors que le régime iranien applique la peine de mort.
Il a dit que tous les gens qui se sont fait arrêter dans la rue en tant que manifestants, sans le tribunal, ils vont passer pour les exécutions.
Même s'ils échappent à la peine capitale, les protestataires risquent une longue détention, mais aussi des sanctions économiques.
Pour les commerçants qui ont participé dans les grèves, ils ont décidé de confisquer, prendre leurs biens.
Au-delà de sa famille, Mariam a peur pour tous les Iraniens, alors que des amis lui ont rapporté que des rues de Téhéran étaient encore recouvertes de sang au lendemain des manifestations.
Propos recueillis par Timur Özturk et l'invité d'Adrien Beck à 7h10. C'est le neveu du guide suprême iranien Mahmoud Moradakhni, médecin exilé en France depuis 40 ans et opposé au régime des Mollahs. En France, un rassemblement a été organisé hier devant un lycée de région parisienne après le suicide d'une élève de terminale au lycée Balzac de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Camélia, 17 ans, s'est donnée la mort mardi dernier. Selon sa famille, son acte est lié au harcèlement scolaire qu'elle subissait depuis un mois et demi au sein de l'établissement. Une centaine de ses camarades se sont réunis pour lui rendre hommage. Julien Raymond.
L'air hagard, cette lycéenne dort très mal depuis qu'elle a appris la mort de Camélia. Comme beaucoup dans ce rassemblement, elle souhaite rester anonyme.
Je suis dégoûtée du fait que l'éducation nationale ne nous écoute pas, du fait que l'éducation nationale ne nous entend pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'une élève se suicide.
À quelques mètres, une autre adolescente a marqué son indignation au feutre rouge sur une grande pancarte en carton pour dire stop au harcèlement.
Du moment que ça ne nous arrive pas, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et du coup, là, vu que nous, ça nous a touchés personnellement, vu que ça touche notre lycée surtout, c'est là qu'on se rend compte du drame et qu'en fait, c'est grave ce qui s'est passé et que l'harcèlement, c'est vraiment pas un jeu.
Une situation qui désespère cette connaissance de Camélia. Elle avait l'habitude de discuter avec elle. Elle se sent d'autant plus concernée qu'elle a subi pendant de longues années du harcèlement. Scolaire.
Heureusement, j'avais ma famille pour m'aider, mes amis pour m'aider, donc je me suis en sortie. Mais sinon, je pense que je serais finie comme la victime. Dans le lycée, il y a des rumeurs qui circulent, des fausses rumeurs qui passent sur des personnes. Les personnes, ils sont souffrants.
Un harcèlement scolaire responsable de la mort de Camélia, c'est ce que disent ces lycéens. Certains pointent aussi l'inaction de l'établissement. Les professeurs ne veulent pas s'exprimer avant les résultats de l'enquête qui ne fait que commencer.
Reportage de Julien Raymond. Le parquet de Meaux a ouvert plusieurs enquêtes, notamment pour recherche des causes de la mort et pour harcèlement scolaire. Nouvelles actions des agriculteurs aujourd'hui, toujours opposés à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. La FNSEA et les jeunes agriculteurs se mobilisent à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, dès 8h30. Les tracteurs doivent traverser la ville avant la réception d'une délégation en sous-préfecture. Hier, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé vouloir augmenter le nombre de contrôles de denrées importées. Les Bleus commencent bien leur Euro de handball. L'équipe de France, tenante du titre, s'est facilement imposée hier soir à Oslo, 42-28 face à la République tchèque pour son premier match dans la compétition. Une entrée en matière idéale pour l'ailier Dylan Nahi.
C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction générale. Voilà, on voulait la victoire. On l'a eu, je pense que ça a été une bonne première, une bonne entrée en lice, donc on est assez content. Maintenant, voilà, les petits détails, c'est toujours à travailler, c'est le début du tournoi. On a le temps, il faut juste bosser, voir ce qui n'a pas marché, et prêt pour l'Ukraine.
Dylan Nahi au micro de beIN Sport, prochain match des Bleus demain face à l'Ukraine. Il est 5h09 sur France Info, Christine Peña, on surveille le sud cette fois.
Mais oui, avec des pluies importantes et soutenues qui se renforcent d'ailleurs cet après-midi, elles vont rester en place tout au long du week-end et dimanche, elles viendront même se caler entre le Languedoc-Roussillon, plutôt le Roussillon, vers les Pyrénées-Orientales, pardon, jusqu'à la Corse. Voilà, alors que dimanche, on verra revenir le soleil par le nord, mais sinon ça va rester bien couvert aujourd'hui.
Merci Christine Pagnat, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes.
France Info, le week-end.
Bonjour, c'est Adrien Beck. Je suis ravi de vous retrouver tous les matins, du vendredi au dimanche.
Sur tous les terrains.
Avec nos reporters.
Les décryptages de nos experts.
Le 8:30 France Info.
Les informer.
Pour tout savoir, tout comprendre, dès votre réveil.
Du vendredi au dimanche, le matin, c'est Adrien Beck sur France Info.
À suivre sur France Info, le RN peut-il remporter Toulon aux prochaines élections municipales? Reportage à suivre. Dans la préfecture du Var, la députée RN Laure Lavalette commence sa campagne, mais se présente sans étiquette. Et c'est le début d'hier de la mission militaire européenne au Groenland, territoire autonome danois que les États-Unis veulent acquérir. La France envoie une quinzaine de soldats, on vous explique pourquoi.
France Info, 5h-6h. Mathilde Romagnan.
La mission militaire européenne au Groenland a été ordonnée face aux menaces russes et chinoises dans l'Arctique. C'est ce qu'a déclaré cette nuit le ministère allemand de la Défense. La France participe à cette mission militaire depuis hier. Une quinzaine de soldats, des chasseurs alpins, spécialistes de haute montagne, sont déjà au Groenland, à Nuuk, à la demande du Danemark. Suède, Norvège, Allemagne et France font front commun pour soutenir leur allié danois, alors que Donald Trump menace de conquérir le territoire autonome du Groenland. Il ne s'agit pas de participer à une escalade guerrière, mais plutôt d'un entraînement. Valentine Joubin, vous faites partie de la cellule décryptage de France Info. Ce n'est pas la première fois que la France déploie des troupes au Groenland.
En réalité, ça fait une dizaine d'années que des soldats français participent à une mission au Groenland baptisée UPIC. C'est un raid de 3 semaines en autonomie complète et en petit effectif. Une dizaine de soldats chaque année. Des membres du groupe militaire de haute montagne habitués au grand froid qui entraînent un commando de l'armée de terre, beaucoup moins familier de ces conditions extrêmes. Objectif, s'habituer à vivre sous moins 30 degrés. Et dans la durée, comme le décrit un des formateurs dans une vidéo officielle.
Survivre pendant 3 jours, c'est possible. Être capable, 18e jour, de faire une cascade de glace difficile, du parapente et du ski, après s'être déplacé sur 200 km, ça ne s'improvise pas.
Ça ne s'improvise pas, il faut habituer son corps à ce climat glacial. Au début, certains soldats peuvent avoir de la fièvre ou des vomissements. C'est ce qui est raconté dans le journal de bord de la mission UPIC 2025.
Et en plus des missions d'entraînement en Groenland, la France a décidé plus récemment de développer une stratégie de défense en Arctique.
Oui, elle a été lancée en juillet dernier. L'objectif, c'est de renforcer la présence militaire française en Arctique et de la rendre plus visible. Pour la France, il y a 2 enjeux principaux. D'un côté, l'accès aux ressources naturelles, comme les terres rares, et de l'autre, la menace russe, qui s'est accentuée avec la guerre en Ukraine, contexte auquel on peut ajouter les velléités d'annexion du Groenland par Donald Trump. Concrètement, dans le cadre de cette stratégie, des soldats français ont participé en septembre dernier à la mission Arctic Light au Groenland, avec des militaires norvégiens, suédois, danois et allemands, ils se sont entraînés à des manœuvres conjointes. 550 soldats déployés au total et la France a aussi envoyé la Garonne, un avion ravitailleur. En parallèle, depuis 1 an et demi, l'armée de l'air s'entraîne à faire atterrir des Airbus sur pistes glacées. En mars dernier, c'est l'A400M qui a obtenu la certification. Elle a été délivrée par l'armée danoise au Groenland.
Merci Valentine Joubin, cellule décryptage de France Info. Cette nuit, le ministre danois des Affaires étrangères l'a redit, il est hors de question, je cite, que les États-Unis acquièrent le Groenland. Malgré tout, la Maison-Blanche assure que le déploiement militaire européen n'empêcherait pas Donald Trump de poursuivre son projet. Projet qui suscite pourtant un large rejet aux États-Unis, selon Gareth Martin, politologue et professeur à l'American University de Washington.
Contrairement par exemple au cas du Venezuela, où là on peut dire l'opinion était certes un peu plus partagée, peut-être plus polarisée, là, il y a une opposition qui est beaucoup plus unanime et qui est beaucoup plus forte, que ce soit au Congrès, mais aussi au sein des électeurs. Ce qui est frappant, c'est que même au sein des Républicains, il y a quand même un fort nombre qui n'est pas convaincu par la nécessité ou le besoin. Certes, il faut quand même un peu mesurer, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'opinion, hein, parce que c'est pas comme si, on va dire qu'historiquement, les Américains avaient forcément pensé profondément ou souvent au Groenland. Mais pour l'instant, certainement, Trump et la Maison-Blanche n'arrivent pas à convaincre de la même manière qu'avec le Venezuela, où là, bon, il y avait forcément plus d'hostilité historique qu'avec le Danemark.
Alors, ne pas être convaincu, c'est une chose. S'opposer frontalement à ce que veut le président américain, c'en est une autre.
Oui, absolument. Mais bon, il faut aussi dire que la capacité du président à convaincre, que ce soit au sein de son parti ou des électeurs, est aussi liée à d'autres facteurs. Et là, il faut quand même avouer que la cote de popularité de Donald Trump a certainement pris des coups, hein, durant la dernière année. C'est une cote de popularité qui est assez limitée. Deuxièmement, il y a aussi le fait que, évidemment, l'économie, qui est toujours le souci principal, n'est pas forcément, on va dire, ronronnante. Donc ça, c'est aussi un autre facteur. Et puis troisièmement, je pense que ça joue aussi ce qui est très important à mes yeux, c'est qu'il y a une tension au sein de MAGA et d'America First. Pour certains, America First veut simplement dire que les Américains utilisent leur puissance et leurs atouts comme ils veulent. Mais il y a une autre frange qui est plutôt pourquoi porter ou pourquoi s'intéresser autant à des problèmes externes quand il y a d'autres problèmes internes plus importants. Et donc, je pense que pour cette partie-là de l'électorat, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette focalisation, cette concentration sur le Groenland, alors qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants à leurs yeux.
Et est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi ?
C'est difficile à expliquer. Je pense qu'il y a une partie qu'on pourrait dire qui est peut-être psychologique, c'est-à-dire l'idée de faire un grand coup d'éclat, l'idée d'être, on va dire, d'accroître le territoire américain, l'idée de l'obsession avec le contrôle des ressources. C'est vrai qu'on parle souvent du fait que les minéraux rares en particulier, certes, le Groenland a des vastes réserves mais qui ne seraient pas faciles à extraire. Et après, je pense que quelque part, il y a aussi un côté que on l'a vu avec le Venezuela, c'est-à-dire que Donald Trump le fait parce qu'il pense qu'il en est capable et que personne ne pourrait l'empêcher.
C'est assez effrayant quand même ce que vous dites, Gareth Martin. Comment vous analysez la politique extérieure de Donald Trump, qui avait promis de ne plus s'occuper des affaires du monde? On a l'impression, depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, qu'il ne fait que ça.
Oui, parce que je pense que même de dire qu'on va simplement s'occuper des affaires internes, c'est pas comme si on peut faire une division facile entre les problèmes internes et les problèmes externes. Il y a une telle interdépendance entre les deux que c'est souvent impossible. On le voit même quand on se concentre sur les questions d'immigration. Après, évidemment, ça a des implications avec des relations avec d'autres pays. On l'avait avec le Venezuela. Donc, je pense que même ça, c'est pas facile à faire. Après, il y a une deuxième chose qui est structurelle. Les présidents américains réalisent souvent, hein, et c'est pas que Donald Trump, évidemment, c'est peut-être plus flagrant avec lui, mais les présidents américains ont souvent plus de liberté en politique étrangère. Donc, c'est souvent plus facile pour eux d'essayer d'agir et d'essayer de montrer des résultats que ça ne l'est en politique économique ou en politique interne, où il y a plus de contraintes et plus d'obstacles. Donc je pense qu'il y a souvent cette tendance à des présidents américains qui ne veulent pas ou qui sont élus sur des questions internes, mais après gouvernent sur des questions beaucoup plus externes.
Gareth Martin, il y a un certain effarement en Europe. Je ne sais pas si vous le comprenez. Hier, par exemple, nous étions en ligne avec une journaliste à Copenhague, au Danemark, où l'opinion est très émue de ce qui se passe dans sa relation avec les États-Unis, le Danemark qui a perdu des soldats, notamment en Afghanistan, qui est un allié très important, en tout cas fidèle des États-Unis. Est-ce que vous comprenez, vous, cette émotion qui saisit beaucoup de pays européens face à un allié qu'on va qualifier d'historique et l'incompréhension, voire l'inquiétude aussi que cela suscite?
Non, absolument. Enfin, j'ai eu l'occasion de travailler et d'échanger avec l'ambassade du Danemark ici. Je peux comprendre absolument leur effarement, parce que le Danemark a été, comme vous l'avez absolument mentionné, un allié extrêmement fidèle et qui a beaucoup souffert en Afghanistan, hein, qui a vraiment mis du sien. C'est un allié qui a aussi investi beaucoup, qui s'est investi énormément dans les États-Unis. Et donc, je pense qu'il y a un vrai choc. C'est aussi la manière brutale dont se déroulent ces événements. C'est-à-dire qu'il semble que l'opinion ou l'envie même des Groenlandais eux-mêmes n'est pas importante. Et aussi, ce qui est difficile à digérer, c'est que Donald Trump semble entièrement imperméable à tout argument contraire. C'est-à-dire que même l'idée qu'il met en avant pour justifier comme quoi si les États-Unis ne le font pas, un jour la Russie, la Chine le feront à la place, même ça, pour l'instant, ça ne tient pas la route. Il y a une énorme présence de l'OTAN autour du Groenland et dans l'Arctique. La Chine n'est pas une puissance de l'Arctique pour l'instant, donc ce n'est pas un danger immédiat. Après, si l'argument était qu'il faut que l'Europe et l'OTAN fassent plus ou s'investissent plus dans la sécurité de l'Arctique, ça, c'est un argument qui peut se tenir, mais la manière dont Donald Trump le justifie est vraiment choquante. Et ça, je peux entièrement comprendre l'émotion au Danemark et à travers l'Europe.
Gareth Martin, politologue et professeur à l'American University de Washington. Il était au micro France Info de Julien Langlais.
France Info, 5h-6h.
À suivre sur France Info, reportage à Toulon, où la députée RN Laure Lavalette démarre sa campagne pour les municipales et espère bien gagner dans la plus grande ville du Var. Bonjour Philippine Thibaudeau.
Bonjour.
À 5h20, l'info en une minute, c'est avec vous. Et à la une, ce matin, la Maison-Blanche assure que l'Iran a suspendu 800 exécutions de manifestants.
Face aux menaces répétées du président américain d'attaquer, pressé par les pays du Golfe de ne pas le faire, faute d'intervenir pour l'instant, Washington sanctionne économiquement les responsables iraniens accusé de coordonner la répression. Plusieurs milliers de morts dans les manifestations de protestation en Iran, selon plusieurs ONG. Des Iraniens coupés d'Internet depuis une semaine maintenant. En France, la colère ne retombe pas. Toujours contre l'accord avec le Mercosur. Toujours contre aussi la gestion du gouvernement autour de la dermatose nodulaire. En Provence, notamment, deux syndicats agricoles appellent à se mobiliser et se donnent rendez-vous à 8h30 à Aix-en-Provence. Rongeurs, cafards, surpopulation carcérale, la Cour européenne des droits de l'homme épingle la prison d'Elzo à Strasbourg. La cour saisie par un ex-détenu en 2016 qui condamne donc la France à lui verser 7 400 € pour dommages moraux. Et puis le Finistère en orange sur la carte de France. Le département breton est placé en vigilance au cru sur l'Aude, le fleuve côtier près de Quimper.
France Info, municipale 2026.
Deux mois avant le premier tour des élections municipales, zoom ce matin sur Toulon, la préfecture du Var, près de 180 000 habitants. Et il y a 31 ans, c'était la première ville de plus de 100 000 habitants à avoir élu un maire Front National. Toulon pourrait retomber entre les mains du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella avec la candidature de la députée Laure Lavalette, porte-parole du RN, mais qui se présente sans étiquette du parti. Pierrick Bonneau.
Laure Lavalette descend les tribunes du Palais des Congrès sur une musique de péplum.
Vive Toulon, vive la République et vive la France !
La chorégraphie des grands meetings du Rassemblement National est respectée, mais pour le lancement de sa campagne, la députée n'a invité ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella et aucun logo du Rassemblement National à l'horizon.
Il m'a paru assez naturel de rassembler au-delà de ma famille politique.
La députée du Var assume vouloir toucher de nouveaux électeurs.
Ça m'a permis aussi de rallier sur ma liste, je pense, des personnalités qui ne seraient peut-être pas venues si ma liste avait été exclusivement du Rassemblement National.
Parmi les 15 premiers noms dévoilés sur sa liste, un policier, un ancien rugbyman, un DJ et seulement deux candidats encartés. Jasmine, qui vote depuis longtemps pour le RN, regrette quand même l'absence du logo à la flamme sur les affiches.
Ça me chiffonne un peu. Normalement, elle est RN.
Cette stratégie n'est pas nouvelle au RN. Elle a notamment permis à Louis Alliot d'être élu maire de Perpignan en 2020. Alors pourquoi s'encombrer avec une étiquette ? La plupart des militants acquiescent.
Je pense qu'elle a bien fait, parce que des municipales, beaucoup de gens votent le personnage, pas le parti.
C'est absolument très intelligent. Qui en a en face de nous ? Des gens qui ne peuvent pas nous accepter, ne peuvent pas nous parler. Et je vais vous dire, ses convictions, on ne les perdra pas pour autant et ses valeurs non plus.
En bonne porte-parole du RN, Laure Lavalette n'oublie pas les priorités de son parti, la sécurité notamment. Dans son local de campagne, la tête de liste de la gauche, Aurélie FI, dénonce une hypocrisie. Magali Brunel est enseignante.
Ça ne trompe personne. Évidemment, comme elle hante tous les plateaux nationaux, il nous semble même que cette candidature, c'est plutôt un marchepied pour elle qu'autre chose. Qu'elle a peu investi Toulon jusqu'à présent parce qu'elle était très préoccupée par son image nationale. Il faut absolument battre le Front National.
Un autre candidat s'agace sérieusement quand on lui parle de Laure Lavalette. L'énergique sénateur LR Michel Bonus.
Elle est porte-parole. Je prends dans une ville, elle n'a pas le truc RN. Personne n'est dupe. Hein.
La liste de Michel Bonus a le soutien du très controversé Hubert Falco, maire de Toulon pendant 22 ans, qui a dû abandonner son mandat en 2023, condamné pour recel de détournement de fonds publics.
Hubert Falco a lancé de vraies bases. En matière de santé, aujourd'hui, on a un hôpital magnifique. Il fallait qu'il aille chercher les financements. Il est très inspirant. Les bases et les fondations sont là. C'est une ville saine. des finances saines. Je suis la continuité, bien sûr.
Mais le sénateur ne sera peut-être pas seul sur la ligne de départ à droite. La première adjointe d'Hubert Falco, José Massi, qui a récupéré les rênes de la mairie à son départ, entretient toujours le flou sur ses intentions.
Reportage à Toulon de Pierrick Bonneau. Il est 5h24 sur France Info, c'est l'heure du monde d'Élodie. Les invités aujourd'hui d'Élodie Suigo sont Catherine Ringer et Mauro Gioia.
Bonjour Catherine Ringer.
Bonjour Élodie Suigo.
Bonjour Mauro Gioia.
Bonjour Élodie.
Alors l'une, Catherine, est auteure, compositrice et interprète indissociable du groupe Lerita Mitsuko. L'autre, donc vous Mauro, est chanteur, comédien et metteur en scène italien. Tous les deux, vous avez beaucoup de points communs et un parcours de vie parfois assez similaire, ce qui interpelle. Vous avez notamment tous les deux évolué, fut un temps, au sein d'un groupe de rock. C'est donc avec une évidence certaine que vous avez collaboré et construit ensemble ce spectacle que vous avez qualifié, Catherine, d'hybride. L'érotisme de vivre est donc son titre. C'est un livre avec à l'intérieur des poésies que vous avez choisies. C'est sorti aux éditions Point Poésie. On parle même de pièce-concert et dans laquelle on parle bien de poésie, celle d'Alice Mandelson, poétesse et témoin indispensable de ce que l'occupation a pu avoir en conséquence dans la vie. Elle a échappé grâce au courage de sa mère à la rave du Veldiv et n'a eu de cesse de crier.
Grâce aussi à la police.
Qui n'a pas réellement joué son
rôle.
Voilà, pour
une fois, c'est bien de le dire aussi.
Qui a accepté de ne pas regarder un peu partout et elle était cachée effectivement dans la cheminée. Qui était-elle pour vous, selon vous, Mauro et Catherine?
Évidemment, j'ai connu les poèmes d'Alice grâce à Catherine, car un jour elle m'a appelé. Elle m'a dit, tiens, regarde ces poèmes, j'ai envie de faire un travail, un spectacle à partir de ça. Et donc, je suis parti à la lecture et c'était très passionnant pour moi, pour une raison très importante, car cette femme n'avait jamais cessé d'écrire. Elle a continué à dicter, même à 96 ans, des poèmes. Elle ne pouvait plus ni regarder, ni écrire. Donc, c'est une vie complètement vécue à travers la poésie.
C'est une histoire incroyable, celle de votre rencontre, Catherine, avec Alice Mandelson. Ça passe par votre fille. Il faudrait que nous la racontiez, parce qu'elle est improbable, cette histoire.
Alice a été un professeur de français passionné au lycée Louis le Grand à Paris. Et quand elle a pris sa retraite en 91, elle est devenue conteuse. Et quand elle est allée conter dans un collège où était notre grande fille, quand elle a entendu le nom, elle a dit « Ah, Ringer, mais je connais ton grand-père ». Et donc, par ce lien, j'ai cherché à la rencontrer parce que je savais qu'elles avaient été très amies. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontrée.
Mauro, la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'est de mettre de la musique. Mais en même temps, quand on lit les textes et les poèmes d'Alice Mandelson, ce qui saute aux oreilles, entre guillemets, c'est la musicalité, le phrasé, en fait.
En effet, vous l'avez bien dit, il y avait des alexandrins, il y avait un rythme. Et moi, je me suis dit, il ne faut absolument pas faire un spectacle avec décor, costume, musicien. Il faut aller au cœur. Le cœur, c'est le poème, la voix de Catherine, et une musique qui puisse mettre tout ça en valeur dans une grande sobriété, qui devienne une grande liberté aussi d'agir sur scène et aussi de variété pour le public, de passer d'un univers, par exemple, celle quand elle était dans la maison des convalescences, à l'autre quand elle était au plein de son explosion, disons, érotique. Et ça, ça fait comme un petit voyage pendant, voilà, 50 ans, en pleine liberté, sans avoir des choses sur les décors, tout ça.
Donc, il y a certains textes qui sont lus, d'autres qui sont mi-chantés, mi-lus, et d'autres qui sont devenus des chansons. Par exemple, une très courte, vous voulez que je vous en fasse une?
Allez-y, grand plaisir.
Elle s'appelle « Non ». Et ça fait « T'aimerais ça, toi, qu'on te glisse là. T'aimerais ça, toi, qu'on te glisse là. T'aimerais ça, toi, la, 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 la. » Qu'on t'aimerait ça, toi, qu'on te glisse la main sous la jupe ou les seins. Bien sûr que non, la jupe, non. Les seins, faut voir.
La force de cet érotisme de vivre n'est-il pas d'offrir finalement un voyage poétique, sensuel à travers le temps d'une femme qui n'a jamais vieilli, parce que ses textes, et c'est ça la force d'écriture, retirent les rides et elle a réussi à trouver ce langage qui la rendra toujours actuelle.
Actuelle, ça ne veut pas dire jeune. Moi, je suis contente d'être une femme âgée parce que je connais plein de plus de choses, j'ai une autre vie et je trouve que c'est beau que la vie évolue, change. Ça n'enlève pas les rides. Moi, je suis contente d'avoir des rides. Il faut accepter d'avancer dans la vie, la sagesse qu'on peut avoir quand on est un peu plus âgé. À chaque époque, c'est plaisir, puisqu'on parle de plaisir.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Catherine Ringer, merci Mauro Gioia. Merci d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci d'avoir reçu.
Il y a effectivement cet ouvrage qui s'appelle L'érotisme de vivre, avec tous ces poèmes que vous avez choisis tous les deux. Et puis il y a effectivement ce spectacle avec le Théâtre de la Ville le 16 février prochain. Vous serez également à l'empreinte, donc à la scène musicale de Tulle le 17 janvier, à la Halle au Grain avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse le 21 et le 29 mars au Centre Culturel de Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin. Merci beaucoup.
Et basta.
Merci
après.
À tous les deux.
Merci.
Et merci Élodie Suigo. C'était Le Monde d'Élodie.
France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Christine Peña, le temps va rester agité tout le week-end dans le sud.
Ben voilà, dans le sud, c'est là que nous avons cet épisode cévenol qui se met doucement en place, mais sûrement les pluies vont redoubler d'intensité à partir de cet après-midi. Mais nous avons un temps qui va redevenir de plus en plus sec sur la moitié nord. Très nuageux aujourd'hui avec encore quelques petites pluies. Demain, nous aurons un temps un peu plus sec qui va évoluer et dimanche même des éclaircies qui devraient se développer entre les frontières du Nord, en tout cas jusqu'au Massif central. Aujourd'hui pour les températures, on reste dans une relative douceur. Pas de gelée ce matin, cet après-midi de 10 à 15 degrés, 10 à Rouen, à Lille, à Brest, à Dijon, 15 du côté de Lyon, de Biarritz, de Marseille, Toulon et Nice.
La météo signée Christine Peña, France Info, il est 5h30.
France Info, Mathilde Romagnan.
Le projet de budget 2026 est toujours en discussion à l'Assemblée nationale, mais toujours bloqué. Le gouvernement a reconnu hier soir qu'il ne pourrait pas faire adopter le texte par un vote. Deux débats sont annulés, ils reprendront mardi dans l'hémicycle. Jean-Rémy Baudeau, Matignon va tout de même tenter aujourd'hui un dernier compromis, mais certains partis sont clairement pointés du doigt.
Oui, le Rassemblement national, la France insoumise, responsable, selon Matignon, d'un sabotage continu qui rend désormais impossible l'adoption d'un budget par un vote. Fin de citation. Épilogue de plusieurs longues semaines à l'Assemblée ou en commission, dans l'hémicycle et en coulisses, des compromis n'ont pas pu aboutir. Sébastien Lecornu n'ayant trouvé comme interlocuteur que la droite et le Parti socialiste. L'entourage du Premier ministre prévient donc, l'utilisation du 49-3 ou d'une ordonnance est inéluctable. Un pari politique, car ces deux options reviennent à contourner le Parlement. C'est pourquoi Matignon promet des propositions, les derniers compromis arrachés. Selon nos informations, le pouvoir d'achat, l'écologie, le logement, la jeunesse font partie des dossiers en discussion. Il s'agit de mettre noir sur blanc les derniers engagements pour passer en force en accord avec les socialistes et la droite. Un deal pour tenter d'avoir un budget sans être renversé dans la foulée.
Jean-Rémy Baudou, service politique de France Info. Le gouvernement renonce au quota sur les arrêts maladie, mesure décriée par les médecins libéraux qui sont en grève depuis 10 jours. La ministre de la Santé se dit prête aussi à revenir par exemple sur la modification unilatérale des tarifs par l'assurance maladie ou encore sur les baisses de rémunération des médecins qui cumulent emploi et retraite. Un rendez-vous à la Maison Blanche pour l'opposante vénézuélienne d'extrême droite Maria Corina Machado. S'est entretenue hier avec Donald Trump. Une discussion sur la future transition politique au Venezuela. Rien n'a filtré sur ce sujet entre la lauréate du prix Nobel de la paix et le président américain, si ce n'est la nature du cadeau offert par Maria Corina Machado, sa médaille de prix Nobel, un symbole du passé entre les États-Unis et le Venezuela. L'opposante raconte à sa sortie de la Maison Blanche. Olivier Poujade.
200 years ago, General Lafayette.
Une référence à l'histoire à cette médaille en or à l'effigie de George Washington offerte en 1825 par le général Lafayette au libérateur sud-américain Simon Bolivar.
Bolivar since then kept that medal for the rest of his life.
Et Bolivar conserva la médaille jusqu'à la fin de sa vie. Bolivar, symbole de la gauche révolutionnaire sud-américaine, la référence est surprenante de la part de l'opposante de la droite radicale vénézuélienne, mais le cadeau est prestigieux et flatteur. Maria Corina Machado sait visiblement comment s'y prendre avec Donald Trump.
Le peuple de Bolivar fait ressurgir du temps de Washington cette médaille. Aujourd'hui, médaille du prix Nobel de la paix, pour l'offrir au président pour son engagement sans faille en faveur de notre liberté.
Pourtant, pas sûr que ce joli récit suffise à replacer Maria Corina Machado dans la course à la transition politique au Venezuela. Mise à distance de l'opération Maduro dès le départ, Donald Trump considère que l'opposante n'a pas assez de soutien au Venezuela pour diriger le pays. La porte-parole de la Maison-Blanche a d'ailleurs confirmé hier que le président américain n'avait pas changé d'avis au sujet de Maria Corina Machado, reparti à pied de son rendez-vous au milieu d'une vingtaine de partisans survoltés.
Olivier Poujade. La première ministre danoise rencontre aujourd'hui une délégation du Congrès américain à Copenhague. Le Danemark qui répète qu'une acquisition du Groenland par les États-Unis est hors de question. Les États-Unis ont réitéré cette nuit leur volonté d'acquérir ce territoire autonome danois. Les sports et les Bleus qui commencent bien leur Euro de handball. L'équipe de France tenante du titre s'est imposée hier soir à Oslo 42-28 face à la République tchèque. Le prochain match des Bleus, c'est demain face à l'Ukraine. Merci d'écouter France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Mathilde Romagnan.
Emmanuel Macron a demandé hier aux armées de produire plus vite et en plus grande quantité. C'est dès lors de la présentation de ses vœux aux armées sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône et dans la foulée d'un conseil de défense à l'Élysée consacré à la situation au Groenland et à l'Iran. Mais la volonté du chef de l'État va se heurter au vote du budget qui n'est toujours pas fait, selon Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées au Sénat.
Ça va avoir une conséquence qui est le décalage évidemment d'un budget qui devrait vraisemblablement ne pas être voté avant mi-février, ce qui posera évidemment des problématiques en termes de décalage de commandes par exemple. Les entreprises, elles fonctionnent en fonction des commandes dont elles disposent. Cette fameuse économie de guerre qu'a voulu mettre en place Emmanuel Macron en 2022, je la dénonce depuis le début, ça n'a jamais été une économie de guerre pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a jamais eu ni réquisition d'entreprises, ni mesure de prise efficace pour faire en sorte que les entreprises produisent plus vite ou dans des proportions plus importantes. Donc évidemment, nous avons besoin d'un budget. Je rappelle que le seul budget qui est prévu d'être en augmentation dans le budget 2026, c'est celui de la défense, puisqu'il y a 3,2 milliards d'euros supplémentaires qui sont liés à la trajectoire budgétaire, j'allais dire normale, de la loi de programmation militaire, donc à une augmentation prévue dès 2023. Et depuis juillet 2025, le président de la République et le ministre des Armées de l'époque, qui maintenant est Premier ministre, avait annoncé pour 2026, une augmentation de 3,5 milliards d'euros, ce qui fait globalement, dans le budget de la nation, une augmentation du budget des armées de 6,7 milliards. Et nous en avons impérativement besoin, parce que l'état de la menace est de plus en plus important. Je souscris à ce que disait le président de la République. Pour être fort, il faut être craint. Et pour être craint, il faut avoir des moyens. Et pour ça, nous avons donc besoin d'un budget le plus rapidement possible.
Pourquoi, selon vous, les industriels ont du mal à suivre ? Est-ce qu'il y a, selon vous, des explications rationnelles à cela ? Est-ce qu'on a un outil industriel, finalement, suffisant pour suivre la cadence demandée par le chef des armées ?
Il y a déjà une nécessaire réforme de la Délégation Générale de l'Armement à mettre en œuvre. La DGA, elle avait été demandée depuis quelques années. Il y a des freins internes qui sont difficiles à faire bouger, si je puis dire. Ça a valu malheureusement sa place au dernier DGA, Emmanuel Kiva, mais il est bien évident qu'il faut gagner en agilité, en rapidité, qu'il faut bien moins de règles et de normes, et qu'il faut essayer d'aller plus vite, parce que je rappelle que c'est la DGA qui est un peu le chef d'orchestre de toute cette industrie de la défense, et que cette simplification, cette agilité, cette audace que doit avoir la DGA, elle doit évidemment lui être imposée. Et ensuite, l'écosystème de défense de ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, cette fameuse BITD dont on parle beaucoup, il n'est pas seul responsable. Je le redis une nouvelle fois, une entreprise, pour pouvoir fonctionner, il faut qu'elle ait des commandes. Et pour pouvoir imaginer l'avenir, pour imaginer son processus de production, il faut qu'elle ait évidemment des perspectives de commandes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Depuis 2023, je rappelle qu'on a mis par exemple 16 milliards d'euros dans la loi de programmation militaire sur l'acquisition de munitions. Or, la commission que je préside s'est beaucoup interrogée ces derniers mois sur la nature des commandes qui auraient pu être passées, puisque nous n'avons finalement que très peu de commandes. Et donc, on ne peut pas toujours accuser les entreprises de ne pas avoir fait le nécessaire. Il y a un certain nombre d'entre elles qui ont fait le nécessaire. Je prends l'exemple d'une entreprise comme KNDS, qui fabrique des obus de 155, a investi 300 millions d'euros pour accélérer son processus de production. Ils ont quasiment multiplié par 4 ou 5 leur capacité de production. Ça n'est toujours pas suffisant, mais il y a des efforts qui sont faits par de nombreuses entreprises de la défense. Alors évidemment, il faudrait faire beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux, mais le président de la République, dans son discours de cet après-midi, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il a quand même, et c'est bien la première fois que je l'entends, commencer à faire une sorte de mea culpa, puisqu'il nous annonce depuis 2022 que nous sommes en économie de guerre.
Il a dit que ce n'était pas le cas.
Et que cet après-midi, effectivement, vous avez raison, il a dit que ce n'était pas le cas. Mais oui, bien sûr que nous ne sommes pas en économie de guerre parce que nous ne sommes pas en guerre. Et donc, nous devons préparer évidemment notre industrie pour faire en sorte qu'elle soit capable de monter en puissance pour produire davantage et plus vite. Et pour ça, il faut des budgets, il faut des commandes, et il faut des ambitions. Et on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos des entreprises. Je pense que le président de la République a aussi sa responsabilité dans cette affaire.
Alors, nous ne sommes pas en économie de guerre. Néanmoins, est-ce que la situation internationale vous inquiète, comme l'a évoqué le chef de l'État aujourd'hui, avec évidemment ces tensions en ce moment très fortes avec les États-Unis. D'abord, évidemment, sur le dossier ukrainien, qu'on a tendance un petit peu à oublier en ce moment, mais évidemment là c'est le Groenland qui est en tête et en haut de la pile avec les velléités de Donald Trump à l'égard d'un allié pourtant extrêmement fidèle aux États-Unis, le Danemark. Est-ce que le président a raison quand il pointe finalement même les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur des alliances qu'on croyait finalement, j'allais dire éternelles, mais en tout cas incassables?
Bon, écoutez, je crois que l'état de la menace, il n'a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'elle est de plus en plus importante. Le général de Gaulle disait « L'aveuglement d'une nation qui refuse de voir monter la menace prépare toujours les défaites les plus lourdes ». Et je crois que nous avons besoin de nous rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes et de nous réarmer. C'est la raison pour laquelle nous exigeons évidemment un budget plus important. L'idée n'est évidemment pas d'être des va-t-en-guerre et d'aller courir vers une guerre, c'est bien au contraire d'être suffisamment dissuasif pour éviter que la menace ne soit grandissante et qu'elle ne vienne nous j'allais dire frapper à nos portes. Et quand je dis frapper à nos portes, c'est évidemment aux portes de l'Europe, aux pays baltes, la Moldavie et un certain nombre d'États qui sont évidemment largement menacés par la Russie. Et puis maintenant, évidemment, nous avons à faire face à un allié sur lequel nous ne pouvons malheureusement plus compter, qui est de plus en plus, j'allais dire, velléitaire. Et cette affaire du Groenland nous inquiète, évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, les forces ou les troupes, en tout cas européennes, qui ont été déployées en petit nombre, évidemment, dans le Groenland, sont aussi un moyen de répondre à la demande de Donald Trump, qui exige, évidemment, que le Groenland puisse être protégé. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les forces de l'OTAN, représentées par une multitude de pays membres de cette alliance, qui je rappelle est la plus grande alliance militaire qui n'ait jamais été créée dans le monde, eh bien ces militaires de l'alliance de l'OTAN vont être présents sur le territoire du Groenland pour assurer la protection et la sécurité. Et je crois que voilà, il faut essayer d'avancer petit à petit sur cette question, essayer de faire comprendre à Donald Trump que ça n'est pas la solution. Et je crois que aux États-Unis même, vous avez vu comme moi les sondages qui sont assez clairs sur le sujet. 3 Américains sur 4 refusent évidemment que le Groenland soit pris par les États-Unis, et les Républicains même au Congrès commencent à élever la voix et à une certaine incompréhension vis-à-vis de la politique de Donald Trump. Donc moi, je crois en tout cas aux cordes de rappel, et j'espère qu'aux États-Unis, il en existe encore quelques-unes qui vont permettre d'empêcher Donald Trump d'aller aussi loin qu'il le voudrait.
Un tout dernier mot, Cédric Perrin. C'est difficile aussi, peut-être vous en conviendrez, de rattraper pour la France le retard pris depuis tant d'années.
Ce mal, il est général. C'est-à-dire que les dividendes de la paix, tout le monde en a bénéficié. Tout le monde, vous prenez l'ensemble des budgets des pays développés dans le monde à partir des années 95-2000, l'ensemble de ces pays ont diminué leur budget de la défense. Parce que à ce moment-là, on croyait en une paix éternelle, en une croissance infini. Et je pense que si les gouvernements à ce moment-là avaient continué à augmenter leur budget de la défense de manière importante, leurs opinions publiques les auraient reprises de volée. Or aujourd'hui, on se rend bien compte, depuis 2015 notamment, que la menace est toujours présente, que le risque est important, et que pour pouvoir être suffisamment dissuasif, il faut être fort. Et pour être fort, il faut être armé. Ce n'est pas à dire évidemment qu'on a besoin d'utiliser ses armes, mais que pour pouvoir être, j'allais dire, je l'ai dit plusieurs fois, mais dissuasif, pour empêcher la menace pour éviter de se faire dévorer, eh bien, il faut avoir les moyens de ses ambitions, et donc on a besoin de budget pour ça.
Cédric Perrin, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Il répondait aux questions de Julien Lenglet. 5h43 sur France Info. Vous vous y rendez peut-être tôt ce matin au marché. Depuis la crise Covid, les marchés se sont multipliés dans les petites villes et permettent de les redynamiser. C'est le choix de France Info dans 3 minutes après ce reportage en Turquie auprès des Iraniens fuyant le régime et la répression des manifestations.
France Info, 5h-6h.
L'info en une minute, c'est avec vous, Philippine Thibaudot, et à la une, à 5h44, le gouvernement annule les débats sur le budget.
Oui, le budget justement qui est au cœur des discussions depuis plusieurs jours annule les débats prévus aujourd'hui et lundi avant le retour du texte dans l'hémicycle. Que va faire Sébastien Lecornu? Ordonnance ou 49.3 sont en réflexion, mais le Premier ministre espère d'ici là obtenir un consensus. Il doit faire des annonces dans la journée. Danois et Américains aujourd'hui dans la même pièce pour parler du Groenland. La Première ministre danoise doit rencontrer une délégation du Congrès américain en visite à Copenhague. Face au désir de conquête de Donald Trump, plusieurs pays européens ont envoyé des troupes sur le territoire groenlandais. Washington qui a fait savoir que cela n'aurait aucun impact sur son objectif d'acquérir le territoire autonome danois. Voilà un sacré cadeau. L'opposante vénézuélienne Marina Corina Machado a remis hier son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Un geste magnifique, salue le président américain alors qu'il l'a rencontré à la Maison Blanche. Lui qui convoitait ouvertement la distinction, le Nobel Peace Center a précisé tout de même, je cite, qu'une médaille peut changer de main mais pas le titre d'un lauréat.
France Info. L'Iran a renoncé à 800 exécutions de manifestants initialement prévues avant-hier, selon la Maison-Blanche. Les États-Unis qui assurent que toutes les options restent sur la table et qui n'excluent pas donc une intervention militaire américaine. La répression iranienne a fait plus de 3400 morts, selon l'ONG Iran Human Rights. Les Iraniens, eux, réclament l'attention de la communauté internationale. Marie-Pierre Véraud, vous vous êtes rendue à la frontière entre la Turquie et l'Iran.
Ils savent qu'ils ne s'en sortiront pas seuls. La violence de la répression, la misère économique dans laquelle les a plongés le régime, la surveillance omniprésente jusque dans les petites villes, les Iraniens qui arrivent en Turquie interpellent la communauté internationale, comme cette jeune femme qui a rapidement empaqueté quelques effets.
Vous savez, en Iran, les gens ont besoin d'aide. Le président américain Trump, tous les Iraniens ont besoin de lui. Il peut voir la cruauté dans le pays.
Trump avait en effet mis en garde Téhéran contre les violences envers les manifestants. Mais cet ingénieur, qui a fait près de 1000 km pour gagner la Turquie, ne croit guère en l'humanité du patron de la Maison-Blanche.
Je pense que les droits de l'homme et tout ça, c'est du pipeau. C'est une question d'argent. Vous savez, les Américains, ils veulent juste un deal avec l'Iran, mettre un dollar et en récupérer deux.
Un scepticisme largement partagé à la frontière.
Trop de pays ont des intérêts, les Chinois, les Russes et même les États-Unis. On a déjà eu cet espoir stupide. Je me souviens, à l'époque d'Obama, on scandait « Obama, Obama, tu es avec eux ou avec nous ?» Et au moment de venir nous aider, personne n'est là. Trump, ils vont lui donner de l'argent et on n'en parlera plus.
Et l'Europe n'est guère mieux lotie, explique Amir. Petite boucle d'oreille et grosse doudoune.
Si nous cherchons dans notre mémoire, personne ne nous a aidés ces 45 dernières années, et particulièrement l'Europe. Elle a un accord avec le régime. Quant aux États-Unis, ils ont un deal avec les pays de la région. Ils veulent juste priver la Chine de pétrole pas cher. Les gens, ils s'en fichent.
Les États de la région, ceux du Golfe notamment, auraient convaincu Trump de surseoir à l'option militaire. La Turquie y est également opposée. Les Iraniens redoutent d'être une fois de plus sacrifiés au nom d'intérêts qu'ils ne connaissent que trop bien.
Reportage de Marie-Pierre Véraud à la frontière entre la Turquie et l'Iran. Dans le choix de France Info, on s'intéresse au marché. Poulet rôti du dimanche, fruits, légumes et surtout lien social. Depuis 5 ans et la crise du coronavirus, le nombre de marchés de plein air est passé de 8 à 12 000 dans le pays, selon la Fédération nationale des marchés de France, qui a même lancé une pétition pour les inscrire au patrimoine culturel immatériel national. Bonjour Marc Bertrand.
Bonjour.
Vous êtes rendu à Salins, où 1171 habitants vivent en Seine-et-Marne. Dans cette ville, la mairie vient de créer un marché il y a 3 mois et le miracle opère. Ce marché fait revivre le village. Vous nous emmenez ce matin avec le rôtisseur, vous qui commence sa journée très tôt le matin.
Le vieux Peugeot Partner siglé Rôtisserie Fermière chauffe déjà dans l'allée. Laurent ferme doucement la porte de chez lui, dans la banlieue de Melun.
Bon, on fait le tour de la remorque et de la voiture pour voir si tout est OK. Là, tu vois, regarde, j'ai 15 poulets, j'ai puis pas mal de cochons. Donc je pense je vais pas avoir assez. Bon, non, on verra.
Cet ancien cheminot de 53 ans prend la route tous les dimanches pour Salins, à 40 km d'ici.
Sur Salins, je vends à peu près une vingtaine de poulets. C'est un de mes plus gros marchés. Comme quoi, la petite commune, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de commerce. J'ai pas de concurrent, je suis tout seul. Je refuse même des clients. La plupart du temps, ils réservent au téléphone dans la semaine. Et quand j'arrive, j'ai quasiment la moitié de ma marchandise qui est vendue déjà. Là, on arrive.
Tu traînes, hein?
Ouais, ce matin, t'as vu? Ouais.
Le vendeur de saucissons est déjà en train de s'installer avec l'adjoint au maire.
Ah, Jacques, monsieur.
Meilleur vœu, la santé.
Ils ont ramené les croissants.
C'est la petite tradition des petits marchés. J'offre le premier café.
Et là, aujourd'hui, j'ai ramené le vin chaud.
La mairie a lancé le marché au mois d'octobre. Au départ, un, puis deux dimanches par mois. Six stands au total, maraîchers, rôtisseurs, fromages. Et voilà le camion de la bouchère.
C'est la chevaline, ça.
Tu veux un coup de paluche ?
Jacky Pépin, l'adjoint au maire, a reçu 20 candidatures. Il a dû refuser des commerçants.
C'est incroyable, ça. Ils viennent de Melun, mes fruits et légumes, je crois que c'est 3, je crois. Ah, les fruits et légumes, c'est 3, hein, je crois. Et de 3, il y a 100 km. Hein. Moi, je suis surpris qu'ils disent oui. Et moi, elle me dit, mais moi, je reste là, c'est très bien, parce qu'ils vendent bien. Quoi. Moi, je pense que c'est une demande générale, surtout dans les campagnes, moi, je pense. Je suis un petit peu même surpris de voir autant de monde. Le village revit, moi, pour moi, je dis.
Salut, ça va ? Et toi ? Ça va, ça ?
Les premiers clients arrivent.
Tous mes voeux ?
Hey. Fred et Sylvie, deux retraités, saluent les voisins.
Je ne sais même pas que tu t'étais marié, on a vu ça dans la gazette.
Mais non, c'est vrai qu'on ne se voit plus, parce qu'on travaillait ensemble dans le temps. J'étais là des collègues que je n'avais pas vus depuis X années. Les gens se rencontrent à nouveau.
Tout le monde faisait ses courses au Drive, au Leclerc, à 10 km d'ici. Désormais, le passage obligé, c'est Madame Marteau, 73 ans, qui vend les œufs de sa ferme à 2 km.
Là, il y a 30, 60, 90, 130 œufs. À midi, il n'y a plus rien. Moi, je les vends à 2,70 € la douzaine.
Non, non, c'est défiant, même si c'était un peu plus cher. Ben, je préfère donner les sous à Madame Marteau qui est puisive au moins directement que les donner à Monsieur Leclerc et qui n'achète pas les mêmes œufs au même prix.
Vincent et Aude, un jeune couple d'enseignants, vient d'acheter une maison au village. Ils font la queue avec leur cabas made in France.
Là, on est revenu, on était chez la famille dans les Yvelines, on est revenu pour le marché.
Ah
pour,
oui. On sait que c'est une fois tous les 15 jours, donc on ne peut pas le louper. Ouais. On est super contents qu'un marché soit créé ici, quoi. On attendait que ça. Hein. Bah ouais, parce que vous voyez, maintenant je tape la bise au maire.
Grâce au marché.
Grâce au marché, ouais, parce que sinon, on se dit bonjour de loin.
Bonjour.
Le maire, justement, il ne manque jamais son marché.
Bonjour monsieur.
Bienvenue, Georges Bénard, je suis le maire de la commune.
À Salins, il n'y a pas de commerce.
Merci. Et bonne santé surtout.
Juste une supérette qui fait des pots de pain.
On a à peu près 150 familles qui viennent s'alimenter. Et le plus gros gain d'un marché, c'est un lieu de convivialité. Ce qui manque beaucoup dans nos petites communes, c'est souvent des cités un peu dortoirs, et puis les gens restent chez eux et ne sortent plus. Donc le marché, ça permet de rencontrer les voisins et d'échanger.
Sa plus grande fierté, elle est derrière le rideau métallique qu'un adjoint est en train d'ouvrir dans le bâtiment d'en face.
Johan, chien des élus de la commune. Ouais.
Ce policier de la BAC de Melun rouvre l'ancien café chaque dimanche de marché avec la cafetière de la mairie et les tables de la cantine de l'école.
On avait un restaurant une époque à l'intérieur.
Il n'a pas fonctionné, donc on s'est dit qu'ouvrir une petite buvette communale le matin, ça le fait vivre.
Alors je vais prendre un café.
Et là il y a un petit écriteau, café 1 euro, kir 1,50 euro.
Non, pas de petit kir.
Le café fait le plein à chaque marché. Les recettes financent des sorties scolaires pour les écoliers, mais le maire espère surtout que ça attirera un repreneur.
Le reportage de Marc Bertrand, le choix de France Info sur les marchés en Seine-et-Marne. À suivre la playlist de France Info avec une collaboration inattendue, Gims et Théodora, vous l'entendrez. Mais d'abord, c'est le réveil de l'écho. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Toute l'actualité économique en trois titres, Emmanuel. La consommation de carburant a baissé l'année dernière en France.
Oui, petite baisse, mais notable dans le contexte de crise que traverse le secteur automobile. La consommation de carburant routier a reculé de 0,6% par rapport à 2024, avec 47,5 millions de mètres cubes. Le repli est encore plus important pour le diesel. Alors, selon le comité professionnel du pétrole, par rapport à 2019, qui est la dernière année avant la crise Covid, eh bien, les livraisons de carburant routier en France ont reculé de 5%.
La Poste n'a pas chômé avant et pendant les fêtes de fin d'année.
Et oui, le groupe vient de publier un bilan chiffré. La Poste a distribué plus de 180 millions de colis dans l'Hexagone entre novembre et décembre. C'est une hausse de 6% sur un an. Avec ses services Colissimo et Chronopost notamment, l'opérateur a connu un pic d'activité le 1er décembre avec 5,5 millions de colis traités en une seule journée. Plus de 100 000 postiers ont été mobilisés, épaulés par 3 000 renforts saisonniers et 3 200 cadres qui sont venus prêter main forte sur le terrain.
Le géant suédois des télécoms Ericsson prépare un plan social.
Oui, dans le cadre d'une vaste restructuration, le groupe annonce qu'il envisage de supprimer 1 600 postes en Suède. Le groupe compte plus de 80 000 employés dans le monde, dont environ 13 000 dans son pays d'origine. Les coupes dans les effectifs concerneront essentiellement la branche recherche et développement. L'objectif officiel est d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. En octobre dernier, Ericsson avait pourtant annoncé une forte hausse de son bénéfice net au troisième trimestre 2025, malgré une baisse de ses ventes.
Et on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info, Emmanuel Cugny pour le Brief Éco.
La fusée européenne Ariane 6 doit lancer en février prochain une trentaine de satellites pour le compte d'Amazon. Des engins qui iront compléter la constellation satellitaire du géant américain. Alors nous verrons pourquoi ce dernier choisit l'Europe pour lancer une partie de ses satellites, ce qui profite évidemment à notre industrie.
Merci Emmanuel Cugny et à tout à l'heure, 6h05 sur France Info, la playlist du jour. Avec vous Philippine Thibaudot et ce titre qui s'annonce déjà comme le hit de cette année.
Un featuring, une collaboration sortie à minuit, rendez-vous compte entre Gims et Théodora. Trois minutes et trois secondes, pas plus, pour cette chanson intitulée « Spa », qui parle donc de spa, de hammam, d'origine, de voyage. Voilà, c'est d'abord une chanson, vous l'aurez compris, pour faire danser, annoncée sur les réseaux sociaux par Gims lui-même.
Rendez-vous vendredi 16 pour le featuring avec Théodora.
Il a contacté publiquement la chanteuse sur Instagram cette semaine, la pressant, insistant pour qu'elle vienne enregistrer un couplet sur un morceau. Il a même publié un screen, une capture d'écran de leur conversation privée, lui assurant, je cite, un hit, 2026 est à nous, lui écrit-il. Quelques jours plus tard, c'est donc désormais chose faite.
En tout cas, Philippine, dans ce duo, c'est la rencontre entre le numéro 1 du rap et la nouvelle star de la pop.
Lui, on le connaît, le plus gros vendeur de disques l'an passé, porté par des tubes comme Ciel.
Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne.
Et elle, j'ai envie de dire, on la connaît aussi maintenant, hein, en haut des classements de streaming, tête d'affiche des prochains festivals, et nommée cette semaine dans pas moins de 5 des 9 catégories des victoires de la musique, dont les prix très convoités de meilleur album pour Mega BBL et chanson originale avec Fashion Designer. Question maintenant, le duo va-t-il faire mieux que la précédente collaboration de Théodora ?
Parce qu'on s'en souvient, elle a sorti, Théodora, une chanson aussi avec le rappeur This Is.
Oui, la chanson Mélodrama, sortie en septembre dernier.
Je suis comme un son que t'aurais pas, chaga. Je suis comme un condensé mais les mélodrames.
On l'entend partout, hein, cette chanson, et tout le temps, la chanson est restée 14 semaines en tête des charts en France et atteint bientôt les 100 millions de streams, désormais donc disque de diamant. Théodora, en fait, on se l'arrache. Dernièrement, elle a fait un feat, une collaboration avec le Marseillais Jul ou encore sur scène avec la Belge Angèle, ce qui promet donc pour 2026, on l'espère, encore de nombreuses collaborations pour la chanteuse.
Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux, mais moi j'ai dit je t'aime en un pas deux. Je ne l'ai plus dit, je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER, si ton pied s'est monté, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam.
Pas de doute, Philippine, ça va nous faire danser ce featuring Gims, Théodora. Merci, c'était la playlist du jour. La météo tout de suite.
France Info Météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Christine Peña, des pluies soutenues pour le sud.
Voilà, je suis pas sûre que ça vous fasse danser vraiment.
Malheureusement non.
Ce ciel est souvent gris. Et effectivement, les pluies les plus soutenues sont pour le sud, autour des Cévennes, de l'Ardèche. Nous avons cet épisode là qui se met en place. Les pluies vont se renforcer cet après-midi. Elles resteront durables tout le week-end, dimanche compris. Elles viendront se caler en début de semaine prochaine entre le Roussillon et la Corse. Nous avons toujours ce matin de la douceur, pas de gelée, de 7 à 9 degrés, 12 à 13 en Méditerranée. En journée, nous aurons peu d'évolution. D'ailleurs, les éclaircies pourront peut-être être un petit peu plus larges vers les côtes de la Manche et encore, surtout vers la Normandie. Quelques orages sont même possibles au sud de la Bretagne. Le vent affaiblit vers les côtes de la Manche, mais il reste présent et les températures en journée seront à peu de choses près les mêmes que celles d'hier, de 10 à 15 degrés, 15 dans le sud. Alors notre week-end, je vous l'ai dit, demain samedi, très nuageux, pluvieux, et puis nous avons quelques éclaircies quand même à espérer dimanche entre les frontières du Nord, Paris et le Massif Central.
Merci Christine Peña, il est temps de retrouver Adrien Beck avec vous jusqu'à 8h30. Bonjour Adrien.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. On vous retrouve évidemment Mathilde tout à l'heure pour le journal. Rendez-vous à 7h. Je suis ravi d'être avec vous en ce vendredi matin. À mes côtés, Christine Peña, bien sûr.
Bonjour
Christine. Je salue également Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour.
On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal. Tiens, je ne sais pas si vous arrive de temps en temps d'aller faire vos courses au marché, Christine.
Oui.
Peut-être.
Absolument,
ah bon, bah dimanche. Voilà. Oula, bah voilà. Bah, sachez que nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, puisqu'il y avait en France 8000 marchés en 2020. Il y en a désormais 12 000. Et dans une grosse demi-heure, on va voir que dans les petits villages, et bah, tout ça permet de redonner beaucoup, beaucoup de vie.
C'est
alors
tant
que.
Mieux.